Chapitre 12. Je n'avais pas oublié l'existence du signal d'alarme. C'est simple, quand on est vraiment paniqué, on ne pense pas tout de suite à appuyer sur des boutons. Le kayak tombait dans une étendue infinie d'air, interrompue seulement par des nuages qui s'élevaient sur des dizaines de kilomètres, depuis les fonds violacés jusqu'au plafond laiteux d'autres nuages suspendus à des milliers de mètres au-dessus de moi. J'avais lâché ma pagaie et la regardais dégringoler en chute libre. Le kayak et moi tombions plus vite qu'elle pour des raisons d'aérodynamique et de vélocité terminale bien au-delà de mes capacités de calcul en ce moment précis. Les grandes vagues de l'eau du fleuve que je venais de quitter tombaient devant et derrière moi, se dispersant et se modelant en sphères ovoïdes semblables à celles que j'avais vues en impesanteur, mais qu'ici, les coups de fouet du vent crevaient. J'avais l'impression de tomber dans ma propre trombe d'eau localisée. Le pistolet à fléchette que j'avais emprunté au soldat endormi dans la chambre à coucher de Demloa était coincé entre ma cuisse et la couture intérieure recourbée de la jupe du cockpit. Mes bras étaient levés, comme si j'étais un oiseau prêt à prendre son envol. Je serrais les poings de terreur. Après mon premier cri, je me retrouvais les mâchoires serrées, les molaires grinçant les unes contre les autres. La chute continuait, encore et encore. J'avais entrevu l'arche du Distrance au-dessus et derrière moi, bien que le mot « arche » ne convienne plus, car l'énorme engin qui flottait sans support n'était plus qu'un anneau de métal, un tor, un beignet rouillé. Pendant une brève seconde, j'aperçus le ciel de Vitus Grey Balianus B à travers l'anneau rougeoyant, puis l'image s'effaça et il n'y eut plus que des nuages de l'autre côté de l'arceau en train de s'éloigner. C'était la seule chose substantielle dans tout ce paysage de nuages et j'étais déjà à plus de 1000 mètres en dessous d'elle. Dans un moment de vertige et de panique, j'imaginais que si j'étais un oiseau, je pourrais revenir en volant jusqu'à l'anneau du Distrance, me percher sur son arceau large et bas et attendre. Attendre quoi? Je m'agrippais aux deux côtés du kayak qui s'était mis à tourner, me renversant presque la tête en bas, tandis qu'il plongeait vers les profondeurs violettes à des clics et des clics en dessous. C'est alors que je me souvins du signal d'alarme. « Quoi que tu fasses, n'y touche pas », avait dit Aîné quand nous avions mis le kayak à l'eau sur l'ancienne terre. « Je veux dire n'y touche pas, tant que ce n'est pas absolument nécessaire. » Le kayak tournoya de nouveau sur son axe longitudinal, et les secousses faillirent m'arracher au cockpit. Mes fesses ne touchaient plus le coussin matelassé du fond de la coque. Je flottais librement dans une constellation d'eau en chute libre, de pagaies dégringolants et de kayaks plongeants. Je décidais de qualifier cet acte d'absolument nécessaire, soulevais le couvercle en plastique et, du pouce, appuyais sur le bouton rouge. Des panneaux s'ouvrirent soudain devant le cockpit, près de la proue et derrière moi. Je courbai la tête lorsque des cordes en sortirent et que des mètres et des mètres de tissu se gonflèrent. Le kayak se redressa, puis freina si dur que je fus presque arraché à la jupe. Je m'accrochais frénétiquement aux côtés en fibre de verre, tandis que le kayak se balançait sauvagement. La masse informe, au-dessus de ma tête, parut se modeler en une chose plus compliquée qu'un parachute. Même sous l'effet de mes décharges d'adrénaline, et malgré la panique qui me faisait grincer des dents, je reconnus l'étoffe mémoire que Abetik et moi avions achetée au marché indien, près de Taliesin West. Le tissu piézoélectrique à capteur solaire presque transparent, ultra léger, ultra résistant, pouvait se souvenir d'une douzaine de configurations préenregistrées. Nous avions envisagé d'en acheter plus et de l'utiliser pour remplacer la toile couvrant le grand studio des architectes, car l'ancien toit s'effondrait, pourrissait, devait être réparé et remplacé régulièrement. Mais Ashwright avait insisté pour garder l'ancienne toile. Il préférait la lumière jaune beurre qu'elle lui offrait. Abetik avait emporté la douzaine de mètres d'étoffe mémoire dans son atelier, et je n'y avais plus pensé. Jusqu'à aujourd'hui. La chute cessa. Maintenant, le kayak était suspendu à une paravoile en forme de delta, soutenue par une douzaine de montants de nylon 10 qui se dressaient à certains points stratégiques, le long de la coque. Le bateau et moi descendions toujours, mais en piqué graduel et non plus en chute vertigineuse. Je levai la tête, l'étoffe mémoire était assez claire pour que l'on voie au travers, mais l'anneau du Distrance, trop lointain maintenant, était caché par les nuages. Je suppose que j'aurais dû être reconnaissant à mes amis, la jeune fille et l'androïde, qui avaient prévu cette situation et équipé le kayak en conséquence, mais ma première pensée fut un irrésistible « Allez vous faire foutre !» C'était trop. Être jeté dans un monde de nuages et d'air dépourvu de sol, c'était bougrement trop. Si Aînée savait que j'allais être lancé ici, pourquoi n'avait-elle pas... Dépourvu de sol ? Je me penchai sur le bord du kayak et regardai en bas. Peut-être allais-je flotter doucement jusqu'à une surface invisible. Non. Il y avait sous moi des kilomètres d'air vide et plus bas, les couches inférieures étaient noires et violettes, obscurité que seules les féroces balafres des éclairs dissipaient. La pression atmosphérique devait y être effroyable. Ce qui soulevait une autre question. Si c'était une planète jupitérienne, Wyrl, Jupiter ou l'une des autres, comment se faisait-il que j'y respirais de l'oxygène? Autant que je sache, toutes les géantes gazeuses que l'humanité avait rencontrées étaient composées de gaz mortels, méthane, ammoniac, hélium, oxyde de carbone, acide cyanhydrique et autres saletés, sans trace d'eau. Je n'avais jamais entendu parler d'une géante gazeuse avec un mélange respirable d'oxygène et d'azote, et pourtant, je respirais. L'air était plus ténu que sur d'autres mondes que j'avais traversés, et il puait un peu l'ammoniac, mais je respirais. Alors, ce n'était pas une géante gazeuse. Où diable étais-je? Je levai mon poignet pour parler au Persoc. Où diable suis-je? Il y eut un silence, et je pensais que l'appareil avait été brisé sur Vitus Grey Balianus B. Puis il parla avec la voix hautaine du vaisseau. « Dans un lieu inconnu à Chandimion. J'ai quelques données, mais incomplètes. Dis-moi !» Suivi un listage, feu roulant de température en Kelvin, de pression atmosphérique en millibar, de densité moyenne estimée en grammes par centimètre cube, de vitesse de libération probable en kilomètres seconde, et de champ magnétique en Gauss qui se termina par une longue liste de gaz atmosphériques et de taux d'éléments. La vitesse de libération est de 54,2 clics par seconde, dis-je. C'est une géante gazeuse, non? Presque certainement, confirma la voix du vaisseau. Celle de Jupiter est de 59,5 kilomètres par seconde. Mais l'atmosphère n'est pas celle d'une géante gazeuse. Je pouvais voir le stratocumulus qui était devant moi s'édifier, tel un holo de nature projeté en vitesse accélérée. Le nuage très élevé se trouvait maintenant à 10 clics au-dessus de moi, et sa base disparaissait dans les profondeurs violettes. Un éclair y fulgura. La lumière du soleil qui se réfléchissait sur sa face la plus éloignée semblait somptueuse et basse, une lumière vespérale. L'atmosphère ne ressemble à aucun de mes enregistrements, dit le Persoc. L'oxyde de carbone, l'éthane, l'acétylène et les autres hydrocarbones qui violent les teneurs normales de Solmef peuvent être aisément expliqués par l'énergie cinétique moléculaire de type jupitérien et les radiations solaires qui décomposent le méthane. La présence d'oxyde de carbone est le résultat normal d'un mélange de méthane et de vapeur d'eau dans les couches profondes, là où la température dépasse 1200 Kelvin, mais les taux d'oxygène et d'azote... Oui, le poussai-je, indique la présence de la vie, conclut le Persoc. Je me retournai, inspectant les nuages et le ciel comme si quelque chose m'épiait en cachette. De la vie? À la surface? Peu probable, répliqua la voix dépourvue d'expression. Si ce monde suit les normes de Wyrl et de Jupiter, la pression à la surface de la planète devrait être de 70 millions d'atmosphères de l'ancienne Terre, avec une température d'environ 25 000 degrés Kelvin. À quelle altitude sommes-nous? Je n'en suis pas certain, dit l'instrument. Mais en partant de la pression atmosphérique courante de 0,76 de l'ancienne Terre, sur un monde jupitérien, j'estimerais que nous sommes au-dessus de la troposphère et de la tropopause, en fait, dans les couches inférieures de la stratosphère. Ne devrait-il pas faire plus froid à cette altitude? C'est presque l'espace. Pas dans le cas d'une géante gazeuse, répondit le Persoc de sa voix insupportablement professionnelle. L'effet de serre crée une couche d'inversion thermique qui chauffe les couches de la stratosphère jusqu'à des températures presque optimales pour l'être humain. Pourtant, quelques milliers de mètres en plus ou en moins peuvent entraîner un accroissement ou une chute prononcée de la température. Quelques milliers de mètres, dis-je doucement. Combien d'air y a-t-il au-dessus et en dessous de nous? Facteur inconnu. Mais une extrapolation pourrait suggérer que le rayon équatorial du centre de ce monde à son atmosphère supérieure serait approximativement de 70 000 km, et alors cette couche d'oxygène azote oxyde de carbone s'étendrait approximativement sur quelque 3 à 8 000 km aux deux tiers du centre hypothétique de la planète. Une couche de 3 à 8 000 clics, répétais-je stupidement. Presque 50 000 clics au-dessus de la surface. Approximativement, mais il ne faut pas oublier qu'aux pressions qui doivent régner au centre, l'hydrogène moléculaire devient un métal... Bon, ça me suffit pour le moment. J'avais l'impression que j'allais vomir par-dessus le bord du kayak. Il faut tout de même que je vous fasse remarquer une anomalie. L'intéressante coloration du stratocumulus voisin suggère la présence de monosulfide et de polysulfide d'ammonium, quoiqu'à des altitudes apotroposphériques, on s'attend à la présence d'un cirrus d'ammoniac avec de vrais nuages d'eau qui ne se forment qu'à des profondeurs d'environ 10 atmosphères parce que... Assez ! Je fais seulement remarquer cela parce que l'intéressant paradoxe atmosphérique impliquant... Ferme-la ! Dis-je. Lorsque le soleil disparut, il se mit à faire froid. Le coucher du soleil lui-même, je m'en souviendrai jusqu'à ma mort. Haut, très haut au-dessus de moi, ce qui, d'après les brefs aperçus que j'en avais eus, pouvait être un ciel bleu, passa au lapis lazuli soutenu, semblable à celui d'Hyperion, puis vira au noir violacé. Les nuages autour de moi devinrent plus brillants, tandis que le ciel au-dessus et les profondeurs en dessous fonçaient de plus en plus. Je dis les nuages, mais ce terme générique est grotesquement incapable de rendre la puissance et la grandeur de ce que je contemplais. J'ai grandi dans une caravane de bergers nomades sur les landes dépourvues d'arbres d'Hyperion, entre la grande mer du Sud et le plateau du Pignon. Je m'y connais en nuages. Loin, en dessous de moi, des cirrus cannelés et des cirrocumulus plissés captaient le crépuscule en une orgie pastel de roses tendres et de roses fluo, de nuances violacées et de contre-jours dorés. Je me serais cru dans un temple dont le haut plafond rosé était soutenu par des milliers de colonnes et de piliers irréguliers. Les colonnes et les piliers, c'étaient les imposantes montagnes de cumulus et de cumulonimbus, dont les bases en forme d'enclume disparaissaient dans les profondeurs qui s'assombrissaient à des centaines et des milliers de kilomètres sous mon kayak flottant, et dont les sommets arrondis se gonflaient en cirrostratus entourés d'un halo, à des centaines et des milliers de kilomètres au-dessus de moi. Chaque colonne retenait la riche lumière rasante qui trouait le nuage situé à des milliers de clics à l'ouest, et cette lumière semblait mettre le feu à toutes ces nuées, comme si leur surface était composée d'un matériau terriblement inflammable. Du monosulfide ou des polysulfides, avait dit le Persoc. Eh bien, quels que fussent les corps chimiques qui constituaient ces cumulus, fauves dans la lumière diffuse du jour, le coucher du soleil les enflammait de rouge rouille, de raies cramoisies brillantes, de faisceaux de fibres sanglants qui ruisselaient des masses nuageuses principales comme des fanions cramoisis, de fibratus colorés de rouge qui tissaient le plafond de cirrus comme des muscles dans la chair d'un corps vivant, de masses tourbillonnantes de cumulus si blancs qu'ils me faisaient cligner des paupières comme si j'étais aveuglé par la neige, siroformes striées s'écoulant des tours de cumulonimbus comme des masses de cheveux blonds encadrant des visages pâles renversés. La lumière fonça, s'enrichit, devint si intense qu'elle me fit monter les larmes aux yeux, puis brilla plus fort encore. Les grandes flèches presque horizontales de cette lumière de Dieu brûlaient entre les colonnes, en illuminant quelques-unes là, en rejetant d'autres ici dans les ténèbres, traversant les nuages de glace et les bandes de pluie verticales, éparpillant des centaines d'arcs-en-ciel simples et un millier d'arcs-en-ciel multiples. Puis les ombres montèrent des profondeurs noires comme des hématomes, hachurant encore plus les tourbillons des cumulus et des nimbus qui continuaient à se tordre, et pour finir, grimpèrent jusque dans les cirrus et les altocumulus ridés comme une mare. Pour commencer, les ombres n'apportèrent pas de gris ou de noir, mais une palette infiniment subtile. De l'or scintillant qui se ternit en bronze, du blanc pur devenant crème, puis sépia, du cramoisi empreint d'une hardiesse de sang versé qui s'assombrit lentement en rouge rouille de sang séché, puis tourna au roux automnal. La coque de mon kayak perdit ses reflets et la paravoile cessa de capter la lumière lorsque ce terminateur vertical passa au-dessus de moi. Lentement, ses ombres rampèrent vers les hauteurs. Cela dut prendre au moins une demi-heure, mais j'étais trop absorbé par ma contemplation pour consulter mon persoc. Et quand elles atteignirent le plafond de Cyrus, ce fut comme si l'on avait voilé toutes les lumières d'un temple. C'était un sacré coucher de soleil. Je me souviens d'avoir alors cligné des yeux, bouleversé par les jeux de lumière et d'ombre des nuages, l'étrange agitation cinétique troublante de toutes ces masses brûlantes, prêt à reposer mes yeux maintenant que la véritable obscurité tombait, et à rassembler mes pensées. C'est alors que les éclairs et les aurores boréales commencèrent à jouer. Il n'y avait pas d'aurore boréale sur Hyperion, ou bien je les avais ratées. Mais j'avais vu un exemple des lumières septentrionales de l'ancienne Terre sur une péninsule qui fut autrefois la République scandinave, lors de mon tour du monde en vaisseau de descente de cette planète. Une sorte de chatoiement qui ondulait et dansait tout le long de l'horizon nord à vous donner la chair de poule, robe vaporeuse d'une danseuse fantôme. L'aurore boréale de ce monde ne comportait pas une telle subtilité. Des bandes de lumière, des stries denses, aussi discrètes et discernables que les touches d'un piano vertical, commencèrent à danser, haut dans le ciel, au sud, me semblait-il. D'autres rideaux de vert, d'or, de rouge et de bleu cobalt se mirent à miroiter sur le monde d'air sombre derrière moi. Ils s'allongèrent, s'élargirent, grandirent, s'étirèrent pour rencontrer d'autres rideaux d'électrons jaillissants et s'y mêler. On aurait dit que la planète découpait des poupées en papier dans la lumière chatoyante. En quelques minutes, chaque partie du ciel devint vivante et dansa avec des rubans verticaux, obliques et presque horizontaux de couleurs groupées. Les tours de nuages reparurent, volutes et banderoles réfléchissant la lumière stroboscopique de ces milliers de lueurs froides. Je pouvais presque entendre le sifflement et le crépitement des particules solaires parcourant les lignes terrifiantes de la force magnétique qui enserrait ce monde. Je pouvais les entendre. Fracas, grondements, claquements, bruits secs et sonores, longues chaînes de craquements. Je pivotais dans mon petit cockpit et me penchais sur la coque afin de regarder sous moi. Le tonnerre et les éclairs s'étaient mis de la partie. J'avais vu assez d'orages dans la lande quand j'étais enfant. Sur l'ancienne terre, Aîné, Abétic et moi avions l'habitude de nous asseoir devant l'abri d'apprenti de la jeune fille, le soir, pour contempler les grandes perturbations électriques sur les montagnes. Rien ne m'avait préparé à cela. Les profondeurs, comme je les appelais, n'avaient guère été jusqu'ici qu'un sol sombre, si loin en dessous de moi qu'elles en étaient risibles, promesse ardente de terribles pressions et d'une chaleur plus terrible encore. Mais maintenant, elles étaient vivantes de lumière et tressautaient d'orages qui passaient d'un horizon visible à l'autre comme une série d'explosions nucléaires. J'imaginais des hémisphères entiers de cités détruites par l'une de ces réactions en chaîne de lumière qui grondaient. Je m'agrippais au bord du kayak et me rassurais en pensant que les orages sévissaient à des centaines de clics en dessous de moi. Les éclairs montaient le long des tours de cumulonimbus. Les éclats de lumière blanche interne rivalisaient avec les miroitements de lumière colorée des aurores boréales connexes. Le bruit du tonnerre fut subsonique, puis sonique, subtilement terrifiant d'abord, puis plus du tout subtil, mais encore plus terrifiant. Le kayak et la paravoile ruaient et se balançaient dans les brusques courants d'air thermique, descendant et montant, tel un ascenseur rapide. Je m'accrochais au bordage avec une force démentielle et souhaitais être n'importe où sauf ici. Puis les éclairs commencèrent à s'élancer d'une tour de nuages à l'autre. Le persoc et mon propre raisonnement avaient évalué l'importance de cette planète. Une atmosphère qui s'étendait sur des dizaines de milliers de clics, un horizon si lointain que j'aurais dû larguer des douzaines d'anciennes terres ou d'hyperions entre le coucher de soleil et moi. Mais les flèches des éclairs finirent par me convaincre que c'était un monde fait pour les géants et les dieux, non pour l'humanité. Les éclairs étaient plus larges que le Mississippi et plus longs que l'Amazone. J'avais vu ces fleuves et je voyais ces flèches. Je savais. Je me renfonçais dans mon petit cockpit chaque fois qu'un de ces éclairs frôlait mon kayak volant, comme si cela pouvait m'aider. Les poils de mes avant-bras étaient dressés et je compris que le curieux fourmillement que j'éprouvais sur ma nuque et mon cuir chevelu, c'était exactement ceci. Mes cheveux se tordaient sur ma tête comme un nid de serpent. Des alarmes de surcharge clignotaient sur le disque du persoc. Celui-ci devait aussi me crier quelque chose, mais dans cette cacophonie, je n'aurais pas entendu un canon laser tirant à 10 centimètres de mon oreille. La paravoile claqua et se déchira le long des montants lorsque l'air chauffé et le vide implosant nous frappèrent. À un moment donné, chevauchant le sillage d'un éclair qui m'aveugla, le kayak bascula à l'horizontale, plus haut que la paravoile. J'étais certain que les montants allaient s'effondrer, que le kayak et moi allions tomber enveloppés dans la toile comme dans un linceul, et que nous le ferions pendant de nombreuses minutes, des heures peut-être, jusqu'à ce que la pression atmosphérique et la chaleur mettent fin à mes cris. Le kayak retomba, une fois, deux fois, puis continua à se balancer comme un pendule devenu fou, mais sous sa voile. Outre l'orage qui se déchaînait en dessous de moi, outre la série croissante d'explosions qui se produisaient dans chaque tour de cumulus, outre les éclairs cautérisants qui maintenant reliaient les tours comme un réseau de neurones brûlant dans un cerveau devenu fou, des bouquets d'éclairs en boule et en chaîne commencèrent soudain à se libérer des nuages et à circuler dans les espaces sombres où volait mon kayak. Je regardais dériver l'une de ces sphères d'électricité qui ondulait et déferlait à moins de 100 mètres de moi. Elle avait la taille d'un petit astéroïde rond, d'une minuscule lune électrique. Le bruit qu'elle faisait était indescriptible, mais les souvenirs que je n'avais pas voulu évoquer ressurgirent. Celui d'un incendie de forêt qui me piégea dans les plaines marécageuses d'Aquila, un autre de la tornade qui tomba sur notre caravane dans la lande quand j'avais 5 ans, et celui de grenades au plasma explosant contre le grand glacier bleu sur le champ de glace de la Griffe. Même l'accumulation de ces souvenirs ne pouvait égaler la violence énergétique qui dégringola le long puis en dessous de mon kayak comme un gros rocher vagabond fait de lumière bleue dorée. L'orage dura plus de 8 heures. Les ténèbres, 8 de plus. Je survécus aux premières. Je dormis pendant les dernières. Quand je me réveillais, stupéfié et assoiffé, rempli de rêves de lumière et de bruit, encore partiellement sourd, pris d'une terrible envie d'uriner mais craignant de tomber hors du cockpit lorsque je m'agenouillerais pour y satisfaire, je vis que la lumière matinale peignait le flanc opposé des piliers de nuages qui avaient remplacé les colonnes du temple de la nuit précédente. Le lever du soleil fut plus simple que son coucher. Le blanc et l'or brillant sortirent en rampant d'un plafond de cirrus, longèrent les flancs agités des cumulus et des nimbus, descendirent jusqu'à moi qui tremblait de froid. Ma peau, mes vêtements et mes cheveux étaient trempés. À un moment quelconque de cette folle nuit, il avait dû pleuvoir, et fort. Je me mis à genoux sur le plancher rembourré du kayak, me tenant fermement de la main gauche au bord du cockpit. J'attendis que le balancement du kayak se calme un peu et me soulageai. Le fin ruisseau doré brilla à la lumière matutinale en tombant dans l'infini. Les profondeurs étaient noires, pourpres et de nouveau impénétrables. Le bas de mon dos me faisait mal et je me souvins du cauchemar que fut mon calcul rénal des jours précédents. Cela me semblait être une toute autre vie, loin dans le temps et l'espace. Eh bien, pensais-je, si je dois éliminer une autre pierre minuscule, je n'y arriverai pas aujourd'hui. Je refermai ma braguette et me réinstallai dans le cockpit, en essayant d'étirer mes jambes endolories sans tomber en dehors. Je pensais à l'impossibilité de trouver un autre anneau d'istrance dans ce ciel infini, après cette nuit qui dut me faire dévier de ma course, si j'en avais jamais eu une, lorsque je m'aperçus soudain que je n'étais pas seul. Des choses vivantes montaient des profondeurs et m'encerclaient. Tout d'abord, je ne vis qu'une seule créature et, sans échelle de grandeur, restais incapable d'estimer la taille de mon visiteur. La chose pouvait mesurer quelques centimètres de long et se trouver à quelques mètres de mon kayak, ou bien mesurer plusieurs kilomètres et être fort loin. Puis l'organisme nagea entre un pilier de nuages et une tour de cumulus encore plus éloignée. Et je me rendis compte que plusieurs kilomètres étaient une évaluation plus raisonnable de ses dimensions. Lorsqu'il se rapprocha, je distinguai les myriades de formes plus petites qui l'accompagnaient dans le ciel matinal. Avant d'essayer de dépeindre ces choses, je dois dire que l'histoire de l'expansion de l'humanité dans ce bras de la galaxie ne nous avait guère préparé à décrire de gigantesques organismes étrangers. La plus grande partie de la vie découverte sur les centaines de mondes explorés et colonisés durant l'Égire et après avait consisté en plantes et en organismes rares très simples, semblables aux diaphanes d'Hyperion. Les grands animaux évolués, les gueules de lampe sur Mare Infinitus par exemple, ou les zeppelins de Wyrle, furent chassés jusqu'à l'extinction. Le cas le plus répandu, c'était une planète abritant quelques rares formes de vie indigènes et une myriade d'espèces adaptées par l'homme. L'humanité avait terraformé tous ces mondes, apporté ses bactéries, ses vers de terre, ses poissons, ses oiseaux et ses quadrupèdes sous forme d'ADN brut, décongelé les embryons stockés dans les premiers vaisseaux d'ensemencement et construit ses usines de naissance lors d'expansions ultérieures. Le résultat se rapprochait beaucoup de la situation sur Hyperion. Des plantes indigènes vivaces, telles les Tesla, le chalme et le bois de barrage, plus quelques insectes du coin qui avaient survécu et coexisté avec les transplants et les adaptés biofabriqués, les triaspans, les plantes bleues, les chênes, les colverts, les requins, les colibris et les daims. Nous n'avions pas l'habitude des animaux étrangers. Et ceux qui montaient vers moi étaient définitivement des animaux étrangers. Le plus grand me rappela la seiche, encore une des bêtes adaptées de l'ancienne Terre, qui prospérait dans les eaux chaudes et peu profondes de la Grande Mer du Sud sur Hyperion. Cette créature ressemblait à un calmar presque transparent. Bien que ses organes internes fussent très visibles, il était difficile de distinguer l'extérieur de l'intérieur tant elle pulsait, palpitait et changeait de forme de seconde en seconde, presque comme un astronef de combat se morphant pour la bataille. La chose n'avait pas de tête, pas même une extension aplatie qui aurait pu être considérée comme une tête, mais je pouvais voir toute une variété de tentacules, bien que frondes ou filaments eussent mieux convenu pour nommer ces appendices qui ne cessaient d'osciller, de se rétracter, de s'étendre et de frissonner. Mais ces filaments étaient tout autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du corps pâle et clair, et je ne savais pas si le déplacement de la créature dans l'air était le résultat des mouvements natatoires des filaments ou des gaz expulsés lorsque la seiche géante se gonflait et se contractait. Puisant dans mes lointains souvenirs des vieux livres et des explications de grande âme, je dirais que les zeppelins de Wyrle étaient d'apparence bien plus rudimentaire, sacs pleins de gaz en forme de petits dirigeables, simples cellules gélatineuses contenant un mélange d'hydrogène et de méthane, qui emmagasinaient et métabolisaient l'hélium dans leurs grossiers sacs élévateurs, méduses géantes flottant dans l'atmosphère d'hydrogène, d'ammoniac et de méthane de Wyrle. Autant que je m'en souvienne, les zeppelins mangeaient une espèce de phytoplancton atmosphérique qui flottait dans l'atmosphère délétère, telle une manne aérienne. Il n'y avait pas de prédateurs sur Wyrle, jusqu'à ce que les êtres humains arrivent dans leurs bathyscaphes volants pour moissonner les gaz rares. Lorsque la seiche se rapprocha, je vis la complexité de ses entrailles. Les contours d'organes pâles et pulsants, des serpentins ressemblant à des intestins, des choses qui pouvaient être des filaments nutritifs, des tubes qui servaient à la reproduction ou à l'élimination, et quelques appendices qui auraient tout aussi bien pu être des organes sexuels que des yeux. Et pendant tout ce temps, elle se repliait sur elle-même, rétractait ses filaments recourbés, puis se propulsait en avant, les tentacules totalement déployés, comme un calmar nageant dans l'eau claire. Elle faisait 500 à 600 mètres de long. Je commençais à remarquer d'autres choses. Autour de la seiche fourmillaient des centaines ou des milliers de créatures dorées en forme de disque, dont les plus petites étaient peut-être aussi larges que ma main, et dont les plus grandes surpassaient les lourdes mantas de rivière qui tiraient les barges dans les rivières d'Hyperion. Ces choses étaient presque transparentes, bien que leurs entrailles soient obscurcies par une espèce de lueur verdâtre, peut-être un gaz inerte rendu luminescent par le champ bioélectrique de l'animal. Elle grouillait autour de la sèche, parfois avalée ou absorbée par un orifice ou un autre, pour réapparaître bientôt. Je n'aurais pas juré que je voyais la sèche manger l'un de ses disques, mais à un moment, je crus apercevoir un nuage de choses verdâtres se déplacer à l'intérieur d'un boyau du monstre, comme des plaquettes fantomatiques dans une veine transparente. La créature et son nuage de compagnons se rapprochèrent, et la lumière du soleil traversa son corps peu avant d'éclairer mon kayak et sa paravoile. Je révisais sa taille. Elle devait faire au moins un clic de long et, quand elle se gonflait au maximum, un tiers de clic de largeur. Les disques vivants flottaient de chaque côté de moi maintenant. Je pouvais les voir se replier et tournoyer aussi comme des mantas. Je sortis le pistolet à fléchette qu'Alem m'avait donné et débloquai le cran de sécurité. Si le monstre attaquait, je tirerais la moitié du chargeur dans son flanc pâle en espérant que sa peau fût aussi mince que transparente. Peut-être avais-je une chance de faire fuir les gaz qui lui permettaient de flotter dans cette bande d'atmosphère d'oxygène. À ce moment, les filaments semblables à une hydre fouettèrent l'air dans toutes les directions, manquant ma paravoile de quelques mètres seulement, et je compris que je ne pourrais jamais tuer ou faire sombrer le monstre avant qu'il ne détruise ma voile d'un coup de tentacule. Je m'attendais à être attiré d'une seconde à l'autre dans la gueule de la sèche, si elle en avait une. Rien ne se passa. Mon kayak flottait vers ce que je pensais être l'ouest, la paravoile s'élevait sur les vents ascendants thermiques et descendait sur les courants plus froids, les nuages me dominaient tout autour. La sèche et ses compagnons, que je considérais sans raison valable comme des parasites, se tenaient à l'écart, à quelques centaines de mètres au nord et à 100 mètres environ au-dessus de moi. Je me demandais si la chose me suivait par curiosité ou était poussé par la faim. Et si les plaquettes vertes qui dérivaient autour de moi n'allaient pas passer à l'attaque d'un moment à l'autre. Incapable de faire autre chose, je posais le pistolet à fléchette inutile sur mes genoux, grignotais les derniers biscuits de mon sac et bus quelques gorgées à ma gourde. Il ne me restait pas assez d'eau pour une autre journée. Je me maudis de ne pas avoir tenté de recueillir l'eau de pluie pendant le terrible orage de cette nuit, sans savoir si l'eau de ce monde était potable. La longue matinée fit place à un long après-midi. Plusieurs fois, la paravoile à la dérive me fit traverser une tour de nuages, et alors je levai mon visage vers le brouillard et léchai les gouttelettes qui se déposaient sur mes lèvres et sur mon menton. L'eau avait un goût d'eau. Chaque fois que j'émergeais, je m'attendais à ce que la sèche soit partie, mais elle restait toujours à ma droite, au-dessus de moi. Une fois, juste après que le halo du soleil eut dépassé le zénith, le kayak fut emporté par un nuage ascendant particulièrement brutal. La paravoile faillit se plier dans le violent courant d'air. Mais elle se stabilisa et quand je sortis du nuage, je me retrouvai plusieurs kilomètres plus haut. L'air était plus ténu et plus froid. La sèche m'avait suivi. Peut-être n'était-elle pas encore affamée. Peut-être se nourrissait-elle après la tombée de la nuit. Je me rassurais avec une série de pensées de ce genre. Je ne cessais de sonder le ciel vide entre les nuages, à la recherche d'un autre anneau distance, mais rien n'apparaissait. C'était de la folie d'espérer en trouver un, les courants atmosphériques m'emportaient en gros vers l'ouest, mais les caprices du jet stream m'expédiaient à des clics vers le nord et le sud. Comment pourrais-je enfiler une si petite aiguille après un jour, une nuit et un jour de dérive de ce genre? Cela semblait improbable. Pourtant, je fouillais toujours le ciel. En milieu d'après-midi, je m'aperçus qu'il y avait d'autres êtres vivants loin dans le sud. D'autres sèches longeaient la base d'une immense tour de nuages. Le soleil perçait assez les profondeurs pour illuminer leur corps transparent sur le noir des abîmes brûlants en dessous d'elles. Il devait y avoir des centaines de ces choses pulsant et nageant au pied de cet unique nuage. J'étais beaucoup trop loin pour distinguer les parasites qui les entouraient, mais une lumière diffuse, comme une poussière flottante, suggérait leur présence par milliers ou par millions. Je me demandais si les monstres restaient habituellement dans les couches basses de l'atmosphère, et si celui qui réglait son allure sur la mienne, me gardant à portée des filaments nourrisseurs, s'était aventuré si haut par curiosité. Je fus pris de crampes. Je m'extirpai du cockpit et tentait de m'étirer sur la coque, accroché au montant de la paravoile pour garder l'équilibre. C'était dangereux, mais il fallait que je le fasse. Je m'allongeais sur le dos et, les jambes levées, pédalais sur une bicyclette imaginaire. Quand je me fus débarrassé de mes crampes, je revins en rampant dans le cockpit et m'assoupis à demi. Peut-être est-ce bizarre à admettre, mais mon esprit vagabonda durant tout cet après-midi, même pendant que les sèches extraterrestres nageaient si près que je me trouvais à portée de leur bouche et que les plaquettes tout aussi étrangères dansaient et planaient à quelques mètres du kayak et de la paravoile. L'esprit humain s'habitue très vite à l'étrangeté si celle-ci ne montre pas de comportement intéressant. Je commençais par penser aux jours précédents et aux mois passés, aux années antérieures. Je pensais à Aîné, au fait de l'avoir quitté, et à toutes les autres personnes que j'avais laissées derrière moi. À Bétic et les habitants de Taliesin Ouest, le vieux poète sur Hyperion, Demloa, Demria et leur famille sur Vitus Grey Balianus B, le père Glaucus dans les tunnels d'air gelé de Sol Draconis Septem, Cushiat, Chiacu, Cushtu, Chishtiku et les autres Chichatuk de ce même monde. Aîné était certaine que le père Glaucus et nos amis Chichatuk avaient été assassinés peu après notre départ de cette planète, mais elle n'avait pas expliqué comment elle pouvait le savoir. Je pensais à tous ceux que j'avais laissés derrière moi, remontant jusqu'à ma dernière vision de grande âme et des membres du clan, agitant la main en signe d'adieu lorsque je partis pour faire mon service dans la garde nationale, tant d'années auparavant. Et toujours mes pensées revenaient à Aîné. J'ai quitté beaucoup trop de gens, et j'ai laissé beaucoup trop de gens faire mon travail et combattre pour moi. À partir de maintenant, je me battrai seul. Et si jamais je retrouve Aînée, je resterai toujours avec elle. Cette résolution brûlait en moi comme de la colère, nourrie par mon absence d'espoir de retrouver un autre anneau de distance dans ce paysage infini.
« Vous connaissez celle qui enseigne ? Elle vous a touché ?»
Les mots ne furent pas portés par le son. Mes oreilles ne les entendirent pas. Ils ressemblaient plutôt à des coups à l'intérieur de mon crâne. Je chancelais littéralement, m'agrippant au bord du kayak pour ne pas tomber en dehors.
« Avez-vous été touché, changé, en apprenant à entendre, voir, marcher avec celle qui enseigne ?»
Chaque mot était un coup semblable à une migraine. Chacun me frappa avec la force d'une hémorragie cérébrale. On criait ces mots à l'intérieur de mon crâne avec ma propre voix. Peut-être étais-je en train de devenir fou. Essuyant mes larmes, je regardais la sèche géante et son essaim de plaquettes vertes parasites. L'organisme plus gros pulsait, se contractait, étendait des filaments qui serpentaient et nageaient dans l'air glacé. Je ne pouvais pas croire que ces paroles provenaient de cette créature. Elle était trop biologique, et je ne croyais pas à la télépathie. Je regardais les disques fourmiller, mais leur comportement ne montrait pas plus de conscience supérieure que des particules de poussière dans un rayon de soleil. Moins que le déplacement synchronisé d'un banc de poissons ou d'un vol de chauve-souris. Me sentant complètement idiot, je criais
« Qui êtes-vous ? Qui parle ?»
Je grimaçais à l'idée que des mots allaient encore exploser dans mon cerveau, mais aucune réponse ne me provint de l'organisme géant ou de ses compagnons.
« Qui parle ?»
criai-je dans le vent qui se levait. Mais je n'entendis que les montants claquer contre la voile de la paravoile. Le kayak vira à droite, se redressa et vira de nouveau. Je me tournai vers la gauche, m'attendant presque à voir une autre sèche monstrueuse m'attaquer, mais je m'aperçus alors qu'une chose infiniment plus malveillante s'approchait de moi. Tandis que je fixais toute mon attention sur la créature étrangère, un cumulus noir venu du sud était en train de m'envelopper. Des serpentins sortaient en tournoyant de cette nuée d'orage et ondulaient sous moi comme des rivières d'ébène. Je vis des éclairs luire dans les profondeurs abyssales et des boules de foudre surgir, crachées par la colonne noire de l'orage. Plus près, bien plus près, suspendu à la rivière de nuages sombres coulant au-dessus de moi, s'enroulait au moins une douzaine de tornades, projetant vers moi des sortes d'entonnoirs qui se détendaient comme des queues de scorpions. Chacun d'eux était aussi gros que la sèche monstrueuse, ou plus grand, des kilomètres verticaux de folie tournoyante, et chacun pondait son propre bouquet de tornades plus petites. Ma pauvre petite paravoile ne pourrait jamais résister à la proximité de ces vortex, et il était impossible que ces entonnoirs me manquent. Je me levais dans le cockpit qui roulait et tanguait, accroché de la main gauche à un montant. Je brandis mon poing levé vers les tornades, vers le nuage tournoyant derrière elles, et vers le ciel invisible au-delà.
« Allez vous faire foutre !»
criai-je. Mes paroles se perdirent dans le hurlement du vent. Ma veste claquait autour de moi. Un coup de vent faillit m'emporter dans le maelstrom. Dépassant la coque du kayak, marque-boutant dans le vent comme un skieur de saut que j'avais vu un jour sur le plateau de glace, au moment où il allait se jeter follement dans l'inévitable descente, je brandis le poing de nouveau et criai
« Essayez donc, bordel de merde! Je vous en défie, vous, les dieux !»
Comme pour me répondre, l'un des entonnoirs se rapprocha, tel un serpent à sonnette, l'extrémité inférieure de son cône tournoyant se projetait en avant comme s'il cherchait une surface dure à détruire. Il me manqua de quelques centaines de mètres, mais le vide que provoqua son passage fit tourbillonner le kayak et la paravoile comme un bateau d'enfant dans une baignoire qui se vide. La résistance que le vent m'opposait disparut. Je retombais sur la coque glissante et aurais sombré dans l'abîme si mes mains, raclant les fibres de verre, n'avaient pas trouvé un montant où s'agripper. Mes pieds étaient déjà hors du cockpit. Une averse de grêle voyageait en compagnie de l'entonnoir. Des grêlons, gros comme mon poing, fouettèrent la paravoile, martelèrent le kayak avec le bruit d'une nuée de fléchettes et me frappèrent les jambes, les épaules et le bas du dos. La douleur faillit me faire lâcher prise. Cela n'aurait guère eu d'importance, je m'en aperçus tandis que je m'accrochais de toutes mes forces au kayak, en train de sombrer, car la voile comptait une centaine de déchirures. Seule sa coupole m'avait empêché d'être mis en pièces par la grêle, mais maintenant, l'aile en forme de delta était criblée de trous. Elle avait perdu sa portance aussi vite qu'elle l'avait gagnée au début, et le kayak plongeait vers les ténèbres à des milliers de clics en dessous. Les tornades remplissaient le ciel autour de moi. Je m'agrippais au montant, maintenant inutile, à l'endroit où il pénétrait dans la coque bosselée, et je restais accroché, déterminé à demeurer ainsi, suspendu, jusqu'à ce que le bateau, la voile ferlée et moi, nous soyons écrasés par la pression ou mis en pièces par les vents. Je m'aperçus que je criais de nouveau, mais le bruit résonnait différemment à mes oreilles, presque joyeusement. J'avais ainsi chuté sur moins d'un kilomètre, le kayak et moi dépassant et de loin la vitesse de libération d'Hyperion ou de l'ancienne Terre, lorsque la sèche, que j'avais oubliée, passa à l'attaque. Elle avait dû se déplacer à une vitesse foudroyante, se propulsant dans l'air comme un calmar à la poursuite de sa proie. Je compris qu'elle avait faim et ne lâcherait pas son dîner lorsque de longues vrilles d'alimentation surgirent autour de moi comme autant d'immenses tentacules qui s'enroulèrent, me tâtèrent et m'enveloppèrent. Si la chose nous avait immédiatement arrêtés, à la vitesse où le bateau et moi tombions, nous aurions été réduits en petits morceaux. Mais la sèche dégringolait avec nous tout en entourant le kayak, la voile, les montants et moi des plus fines de ses vrilles. Chacune faisait tout de même de 2 à 5 mètres d'épaisseur. Puis elle freina la chute, projetant ses gaz ammoniaqués comme un vaisseau de descente en approche terminale. Et elle recommença à monter vers l'orage, là où les tornades se déchaînaient encore et où le stratocumulus central pivotait sur lui-même avec une intensité noire. Bien qu'à demi conscient, je m'aperçus que la sèche pénétrait dans ce nuage tournoyant au moment même où elle nous faisait rouler, le kayak cabossé et moi, vers un orifice qui s'ouvrit dans son immense corps transparent. « Eh bien, pensai-je, j'ai trouvé sa gueule. » Des montants et des lambeaux de paravoile m'entouraient comme un linceul trop grand. Le kayak semblait drapé dans un vêtement grossier, terne, tandis que la sèche nous attirait de plus en plus. J'essayais de retourner en rampant vers le cockpit pour récupérer le pistolet à fléchette et me taillais un chemin hors de cette chose. L'arme avait disparu, projetée en dehors lors de la culbute et de la chute. Ainsi que les coussins de mon siège et le sac à dos contenant mes vêtements, la nourriture, l'eau et la torche laser. Tout avait disparu. J'essayais de glousser, mais le bruit que je fis n'était guère convaincant. Les tentacules tirèrent le kayak et le passager qui s'y accrochait sur les 50 derniers mètres menant à l'orifice bâillant sous le corps de la sèche. Maintenant, je voyais plus clairement les organes internes pulser en ondes péristaltiques, certains pleins de plaquettes vertes vivantes. Lorsque je fus plus près, me parvint une puanteur presque insupportable de produits nettoyants, de l'ammoniac, pensais-je, qui me fit pleurer et me brûla la gorge. Je pensais à Aîné. Ce ne fut pas une pensée éloquente ou prolongée. Je ne fis que l'entrevoir à son 16e anniversaire, tout en cheveux courts, sueur et coups de soleil dus à ses méditations dans le désert. Et je formulai un unique message. Désolé, ma grande. J'ai fait de mon mieux pour arriver jusqu'au vaisseau et te le ramener. Désolé. Alors, les longs tentacules d'alimentation se replièrent et m'introduisirent avec le kayak dans une bouche sans lèvres qui devait mesurer 30 ou 40 mètres de large. Je pensais aux fibres de verre, aux tissus en ultra-nylon de la paravoile, et aux montants en fibres de carbone qui y entraient avec moi, et j'eus le temps de formuler une dernière pensée. « J'espère que ça va te faire mal au ventre. » Je fus alors plongé dans l'odeur de poisson et d'ammoniac, et vaguement conscient que l'air dans les boyaux du monstre n'était pas vraiment respirable, je décidai de sauter du kayak plutôt que d'être digéré. Mais je perdis conscience avant d'avoir pu agir ou formuler une autre pensée cohérente. Sans que je le sache ou puisse l'observer, la sèche continua à s'élever dans le nuage plus noir qu'une nuit sans lune, sa bouche sans lèvres se referma et disparut dans sa chair redevenue lisse, le kayak, la voile et moi, réduit à l'état d'ombre dans les fluides de son appareil digestif.